Nous sommes en train de faire une étude très importante, parce que c'est une étude qui touche le retour de notre Seigneur. On parle le retour du Seigneur Jésus-Christ. Yeshua Yamashia, parce que ça, c'est son nom original dans sa langue qu'il parlait. Puis on regarde les différents signes que la Bible nous parle, pour des signes qui sont avant-coureurs de son retour. Jésus a pris la peine, pas juste Jésus, les apôtres, des prophètes ont pris la peine, inspirés par le Saint-Esprit, de mettre par écrit tout ce qui était révélé par Dieu, par le Saint-Esprit. Ils ont mis ça par écrit pour qu'on ait un livre entre les mains. Puis dans ce livre-là, ça nous donne toutes les révélations de Dieu sur un sujet que je trouve excessivement important, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va faire un survol de quelques signes avant-coureurs du retour de Jésus, parce qu'il y en a trop pour les faire dans une seule réunion comme cela. On va faire un survol rapide de tout ce qui doit arriver avant que Jésus revienne. Oui, il y a d'autres choses que la Bible nous parle qui vont arriver après que Jésus soit revenu, mais on veut regarder les choses qui doivent arriver avant. Pourquoi? Parce que ça nous amène à nous préparer, à ce qu'on soit prêt pour son retour. La Bible annonce des signes qui vont être des signes dans les cieux, des signes sur la terre, des signes dans l'Église, des signes parmi les Juifs, il y a des signes parmi les nations, il y a des signes qui sont du côté de Dieu, parce que Dieu va faire des choses, puis il y a des signes qui vont être du côté du diable, ça nous a révélé des choses sur le diable. Fait que la Bible parle de toutes ces facettes-là, de choses qui vont arriver avant que Jésus revienne. Puis là, plus qu'on va lire, plus qu'on va étudier, plus qu'on va se rendre compte que depuis le début que Jésus est venu, il y a 2000 ans, depuis le début, il y a des signes que Dieu donne pour tenir ses enfants dans la ligne de dire « Hey, Jésus t'a veille de revenir, Jésus t'a veille de revenir », puis c'est correct, parce qu'il faut être en cours comme cela aujourd'hui, parce qu'on voit de plus en plus de signes s'accomplir devant nos yeux. Les signes, en fin de compte, qu'on voit, qui sont écrits, viennent tous de la part de Dieu. Même si c'est le diable qui va faire quelque chose, c'est Dieu qui avait prévu l'histoire, puis annonce la chose. Tous les signes sont révélés par le Saint-Esprit. C'est pas des hommes qui ont inventé cela, commencé à s'imaginer des scénarios, puis mettre ça par écrit. C'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit, qui a parlé au cœur de ces gens-là, puis lui a demandé d'écrire cela, pour que ça nous reste. Il y a des écrits qui ont été écrits dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament. Toute la Bible est remplie de révélations de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu. Puis je vous encourage à lire la Bible pour être au courant de tout ce qui est écrit là-dedans, pour vous tenir au courant de la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Les fardeaux, les soucis, tout ce qu'on vit, les choses difficiles, c'est à la veille d'être achevé. Il y a des signes qui sont prédits par les prophètes dans l'Ancienne Alliance, que les prophètes ont parlé à propos de ce qui arriverait avant Jésus. Il y en a que c'est Jésus lui-même qui a annoncé des choses. Puis par la suite, il y a eu les apôtres qui en ont annoncé aussi, qui ont mis ça par écrit. Ça nous a permis d'avoir le Nouveau Testament, qui est d'une richesse incroyable. Si tu veux apprendre des choses sur Dieu, sur la nouvelle alliance qu'il a faite à travers l'alliance, à travers le sang de Jésus, c'est de lire la Bible, lire le Nouveau Testament en particulier, pour découvrir toute la richesse des bénédictions et des promesses de Dieu. Mais il y a plusieurs signes particulièrement qui ont été écrits dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre de 22 chapitres, puis là-dedans, on retrouve plein de choses, quelques-unes qui étaient du passé, mais la majorité, c'était toutes des choses à venir depuis le temps que Jésus est venu. Faut pas oublier que la fin des temps elle a commencé voilà 2000 ans. C'est pas la fin des temps, en réalité, c'est la fin des nations, du temps des nations. Parce qu'il va y avoir encore une continuité, même après que Jésus revienne. Jésus va revenir, puis il va avoir une continuité sur cette terre pendant des mille ans. Les signes, il y en a plusieurs signes. Les signes à propos de l'apparition de l'Antéchrist, à propos du gouvernement mondial, des signes à propos de la marque de la bête, du contrôle mondial. Il va y avoir des signes pour le salut d'une multitude au milieu d'une grande tribulation. Il y a des signes qui parlent des persécutions qu'il va y avoir contre les Juifs, puis contre les chrétiens. Tous ces signes-là, c'est des avertissements pour nous pousser à nous préparer pour qu'on soit prêts lorsque Jésus apparaîtra. On ne peut pas se permettre de manquer l'enlèvement. C'est la première résurrection. Donc, tous ces signes-là sont avant-coureurs. Ça parle aussi, à travers les siècles, de tout comment est-ce que les chrétiens ont pu vivre dans un contexte difficile, puis les choses étaient annoncées d'avance. Un des premiers signes dans l'Ancien Testament qui avait été annoncé par le prophète Joël, ça s'est accompli au début de l'ère chrétienne. Ça parle de l'effusion du Saint-Esprit. Dans Joël chapitre 2, le verset 28 à 32, ça nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Voyez-vous, dans ce passage-là, prédit, voilà, des milliers d'années, bien avant que Jésus vienne, c'est annoncé qu'il y aura un moment où ce que Dieu, dans la fin des temps, répandrait son esprit sur toute chair. Tous ces passages-là ont commencé à s'accomplir lors de la Pentecôte, 40 jours après, 50 jours après la mort de Jésus, puis son ascension, c'était 10 jours après son ascension. Ça nous parle que l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute chair, puis les gens pourraient prophétiser, avoir des songes, avoir des visions de la part de Dieu, que ça, c'était pas juste pour certains prophètes, réservé à certains prophètes, c'était pour être sur les serviteurs, les servantes, vos fils et vos filles, tout le monde pourrait recevoir le Saint-Esprit et recevoir de la part de Dieu des révélations. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on voit encore que c'est le travail du Seigneur pour nous montrer ces signes-là. Il dit au verset 30, « Je ferai paraître des prodiges. » Je ferai paraître. C'est Dieu qui fait ces prodiges-là, comme je vous disais tantôt. Les signes qui apparaissent, c'est Dieu qui en est l'auteur, puis c'est Dieu qui les exécute. Il dit, il fera paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, colonne de fumée, soleil va changer en ténèbres, lune en sang. Ça fait partie des prophéties bibliques qu'on retrouve même dans le Nouveau Testament. Puis que ça va arriver même au niveau du soleil, de la lune, des étoiles, dans le ciel ou sur la terre, il va y avoir toutes sortes de signes donnés par Dieu, faits par Dieu, pour annoncer la venue. Ça nous dit dans ce passage-là, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Voyez-vous, les problèmes célestes comme les problèmes terrestres, les problèmes dans le ciel ou dans l'espace, ou le soleil, c'est pas dans notre espace à nous, c'est dans l'espace, le soleil, la lune, les étoiles, il va y avoir des signes partout, faits par Dieu, pour annoncer, Jésus revient, préparez-vous. On va vivre de grandes choses, puis même des choses très difficiles. Quand si on va un peu plus loin, on va les voir dans l'étude, il va y avoir même les étoiles qui vont tomber du ciel. Ça va être des choses qui vont arriver avant que Jésus revienne. Le soleil change en sang, etc. Puis là, dans ce moment-là, v'là 2000 ans, ça s'est accompli, Saint-Esprit est répandu, puis ça, c'est une nouvelle ère, l'ère de la fin des temps des nations. Depuis 2000 ans, on est dans le temps de la grâce, on est dans le temps des nations, où ce que Dieu laisse les nations faire leur histoire comme ils le veulent. Dieu donne des avertissements, Dieu donne des châtiments, Dieu est béni, Dieu est châti. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent parmi les nations depuis. Ça a toujours été. Dieu a toujours intervenu, même si les gens s'en rendent pas compte. Puis c'est pour ça qu'on se tient au courant des signes afin de remarquer la main de Dieu qui est en train d'agir dans le monde. Dieu y agit encore aujourd'hui. Vous allez le voir un petit peu dans l'étude un peu plus tard. Tout ça pour dire que la période du temps des nations achève. On est dans cette période-là depuis 2000 ans. Il y a toutes sortes de signes qui s'accomplissent depuis 2000 ans. Mais il y en a beaucoup de signes qui vont s'accomplir juste avant le retour. Puis ça, on va essayer de décortiquer ça tranquillement en regardant plusieurs passages des Saintes Écritures. Puis ça, c'est en même temps, c'est le temps de la grâce, comme on a vu au verset 32, à cause que Dieu répandait son esprit dans les derniers temps, avant le retour de Jésus. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, ça c'est écrit au verset 32, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça veut dire qu'une possibilité, même si on est pécheur, même si on avait oublié Dieu toute notre vie, on ne le savait pas, soit par ignorance, soit parce qu'on voulait pas le suivre, mais qu'un jour, on réalise qu'il revient bientôt, il est toujours temps de se repentir, tant qu'il n'est pas revenu. Le temps de la grâce annoncé là, d'être sauvé par la foi en Jésus, c'est là, depuis 2000 ans, à cause de l'œuvre de Jésus qui est mort sur la croix pour payer nos péchés, mais aujourd'hui, on a la grâce de pouvoir se repentir puis d'accepter Jésus afin d'être sauvé. Le salut est encore en opération aujourd'hui pour te sauver, me sauver, sauver tout le monde avant que Jésus revienne. Parce que, comme je l'ai mentionné dans les études antérieures, lorsque Jésus reviendra, la porte de la grâce va être fermée, puis ça va être impossible de chercher à être sauvé après qu'il soit venu. Nous voyons dans les évangiles, dans certains passages, les disciples étaient assis avec Jésus, puis lui ont demandé quels seraient les signes avant-coureurs de la destruction du temple de Dieu à Jérusalem, puis du retour du Christ et de la fin du monde. Lorsqu'on parle de la fin du monde, on parle de la fin du temps des nations, puis le début du règne de Christ. Fait que Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples en regardant le temple, parce que le temple, moi je l'ai pas vu, mais apparemment c'était d'une beauté incroyable. Les gens étaient estomaqués de voir la beauté de ce temple-là qui avait été fait par les Salomon, puis qui avait été rénové, puis ce temple-là, il était très beau que les gens de partout de la terre allaient visiter ce temple-là. Puis Jésus était devant le temple avec ses disciples, puis là, ils ont commencé à questionner Jésus, puis on retrouve ces récits-là dans trois parties de la Bible. Dans Matthieu, chapitre 24, on trouve ces récits-là. Dans Marc, au chapitre 13, on trouve ce récit-là. Puis dans Luc, au chapitre 21, on retrouve aussi ces récits-là. Ces trois récits-là, racontés par trois personnes différentes, bien, quand on voit les textes ensemble, il faut comprendre que c'est comme des récits rapportés par soit des témoins oculaires ou des gens qui ont raconté ça à un autre puis l'ont mis par écrit. Tout ça doit être jumelé ensemble pour comprendre une vue plus grande de l'ensemble de ce qui a été dit dans cet événement-là que Jésus a parlé avec ses disciples. Fait qu'on va souvent, quand on va regarder les signes, on va regarder ce qui est écrit dans Matthieu. Si c'est des fois dans Marc, des fois dans Luc, des fois juste dans un, parce que c'est la même chose qui est écrit dans les trois. Mais je vais quand même mentionner les références si on ne les lit pas. Afin qu'on puisse voir l'exactitude de ce qu'on apprend sur les signes que Jésus a parlé. Jésus a commencé en leur annonçant la destruction du temple. Dans Matthieu 24, les versets 1 et 2, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Parce que là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis là, les gens se disaient, quelle pierre, quelle construction, c'était extraordinaire de voir cette beauté-là bien faite. C'était pour le temps en plus dans ce temps-là. Mais il leur dit, hein, Jésus leur a dit, voyez-vous tout cela? Il dit, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Wow! C'était toute une révélation, parce que les disciples étaient loin de s'attendre de se faire dire par Jésus que tout ce que vous voyez là, ces belles pierres-là, cette belle construction-là, de ce temple-là, puis même de la ville au complet, était pour être détruite, anéantie, renversée. Tous ces versets-là, dans Marc 13, les versets 1 et 2, on retrouve la même idée. Dans Luc, au chapitre 21, le verset 5 et 6, ça nous dit un peu la même chose, mais en a rajouté un détail. Il dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres, en voulant dire que c'était une super bien fait, tout bien construit, etc., et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Il y a un détail de plus dans Luc qui nous fait remarquer que quand ils ont constaté comment c'était beau, c'était pas juste le temple, mais c'était aussi tous les ornements. Parce qu'on le sait qu'il y avait des ornements en or fabriqués, d'autres en airain, toutes sortes d'ustensiles, puis il y avait aussi la cuve d'airain, il y avait l'autel, il y avait toutes sortes de choses, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Je veux pas tout vous expliquer comment c'était fait, mais vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des sites qui parlent très bien de comment c'était fait. Le temple de Salomon, c'était construit par Salomon, mais rénové un peu plus tard après la déportation de Babylone. Mais on voit que c'était super beau à l'œil, puis les disciples en étaient quand même étonnés de voir comment c'était beau, mais Jésus le dit, tout ce que vous voyez là, ça va être renversé, ça va être détruit, ça va être, la ville avec va être détruite. Jésus annonçait un signe pour la suite des temps. Puis, dans Matthieu 24, dans Luc, dans Marc et dans Luc, ça ramène les mêmes récits. On va les regarder ensemble. Les disciples ont demandé plus de détails, quels seraient les signes autour de ces événements-là. Parce que là, Jésus est en train de leur dire que ça pourrait être détruit, puis il voulait en savoir plus. Fait que, dans Matthieu 24, le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? » En parlant de destruction de la ville puis du temple. « Et quel sera le signe de ton avènement? » Là, il posa aussi une question en même temps sur des signes qui nous feraient prédire le retour de Jésus. Parce que les disciples savaient que Jésus était pour revenir. Puis, une autre question, et de la fin du monde. Voyez-vous, il y avait trois questions que les disciples ont demandé, des explications pour savoir quand et comment, quel signe qu'on verrait, la destruction, de voir aussi les signes de son avènement, et aussi des signes de la fin du monde. Ils voulaient en savoir plus sur ces choses-là. Parce que c'est important de voir que, de comprendre que quand Jésus, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans ce texte-là, quand Jésus leur a répondu, c'était pour donner des signes, des explications sur les trois événements. Fait que parfois, il peut avoir des signes pour un événement, puis parfois, ça peut être une réponse d'un autre signe pour l'autre événement. Parce qu'il est clair que la destruction du temple et l'avènement du Seigneur, il y a eu une grande période entre les deux. Donc, il ne pouvait pas. On sait que c'était tous des signes pour le futur, mais avant que Jésus revienne. C'est ça qu'il faut découvrir ensemble. Si on continue à regarder dans Marc, il donne encore la même idée dans Marc 13, les versets 3 et 4. Il donne la même idée. Puis dans Luc 21, au verset 7, il donne la même idée. Quand ça donne la même idée, je vous lirai pas les textes. Vous pouvez les écrire, puis aller les vérifier par vous-même. Ensuite, Jésus annonce la venue de faux représentants du Christ et de faux Christ. Parce que là, on va comprendre encore une autre vérité là-dessus, sur des signes, un des signes, là, il a dit, là, tout va être détruit. Là, ils veulent avoir des réponses, quand que ça va arriver, tout ça. Première chose que Jésus dit à ses disciples, c'est bien beau de savoir que ça va être détruit, que Jésus revient, blablabla. Tout ça, là, c'est super intéressant, sauf que c'est pas la priorité. La priorité qu'on a besoin de savoir, c'est de demeurer attentif à ce qui est vrai et de ne pas se laisser détourner par des mensonges. Première chose que Jésus dit comme signe, vous allez voir des faux prophètes, vous allez voir des faux représentants du Christ et de faux Christ. Puis ça, c'est important qu'on prenne ça en priorité, de toujours faire attention à ce qu'on écoute sur Internet ou comme prédicateur à quelque part. C'est pas à cause que quelqu'un parle de Dieu que c'est automatiquement vrai. Vous allez le voir dans ce passage-là. Dans Matthieu 24, les versets 4 à 5, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La première chose, prioritaire. Il va venir des faux, puis faites attention de ne pas vous laisser embarquer dans des mensonges. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens. Deux détails que je veux voir là-dedans, c'est que plusieurs viendront sous mon nom. Ça veut dire que beaucoup de gens qui se présentent comme étant des représentants du Christ, des gens qui viennent en son nom. Moi, je suis en Jésus, puis je vous annonce telle et telle affaire. Bon, les gens viennent, puis vous disent des choses. Mais c'est important de vérifier ce qui est dit est vrai. Est-ce que tout ce qu'on entend est vrai? Est-ce que les déclarations sont basées sur la parole de Dieu? C'est important. Jésus lui-même nous avertit. Il dit, ils vont venir sous mon nom, puis en plus, ils vont se dire qu'ils sont le Christ. Là, tout de suite, on pense, oh, il a là, ce gars-là, il se pense pour le Messie en parlant d'une personne. Oui, c'est arrivé qu'il y a des gens qui se présentent comme étant le Sauveur ou le Messie. Ça, c'est des faux. Mais le mot grec du mot Christ, que là, il est un peu plus profond si on va étudier le sens du mot grec. Le mot Christ veut dire oint. Qui veut dire Christ, qui veut dire Messie, qui veut dire Fils de Dieu, qui veut dire loin, être loin. Il a reçu l'onction, il a reçu l'onction. Fait que les gens, Jésus, quand il a voulu dire qu'il y en a qui viendraient puis ils se disent qu'ils sont le Christ, les gens vont se dire qu'ils sont des oints. Ils ont reçu l'onction. Fait que les gens peuvent faire toutes sortes de miracles, toutes sortes de prophéties, toutes sortes de paroles, même des enseignements, puis ils se disent qu'ils sont oints. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils se prennent pour Jésus-Christ, mais ils se prennent pour un représentant qui vient en son nom à Jésus, puis ils se disent qu'ils sont oints. Ça veut dire, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les évangélistes, tous ceux qui se disent qu'ils ont l'onction, je dis pas qu'ils sont tous faux, c'est pas ça du tout. Je dis, faut vérifier s'ils sont vraiment des oints du Seigneur. Là, on fait juste un survol, un peu plus tard, je vais vous expliquer plus en profondeur. Mais là, on regarde ces passages-là, parce que des gens, le premier avertissement que Jésus dit, faites attention, comme signe, vous allez voir qu'il y a des gens qui se disent oints, mais qui sont des menteurs. Il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire qu'ils sont pas là pour dire des vérités. Ils trompent les gens par leur fausse manière de concevoir les écrits. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Puis c'est des aveugles qui conduisent des aveugles, même s'il se passera des miracles. Dans Marc 13, ça dit exactement la même chose, mais dans Luc 21, verset 8, ça nous dit, Jésus, il dit la même chose, mais en ajoutant un autre détail, ils vont dire, c'est moi, le temps approche, ne les suivez pas, que Jésus dit. Le temps approche, et même des gens qui annoncent que le Messie revient, le temps approche. Mais Jésus nous dit, suivez-les pas. Allez pas vers ces gens-là si vous avez détecté qu'ils ne prêchent pas la sainte doctrine, s'ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Fuyez, suivez-les pas, détournez-vous. C'est pas à cause qu'il se passe un miracle à quelque part qu'il faut suivre cette personne-là. Jésus a repris cet avertissement-là plusieurs fois dans Matthieu 24. On voit dans Matthieu 24, le verset 23 à 24, Jésus qui dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, en parlant, le oint est ici ou le oint y est là, ne le croyez pas. » Car il s'élèvera de faux Christ, de faux oints et de faux prophètes, Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voyez-vous, cet avertissement-là a été dit voilà 2000 ans, et ça fait 2000 ans qu'il y a des faux prophètes, qu'il y a des faux oints qui sont dans le monde, puis qui introduisent les églises chrétiennes, les églises évangéliques, les églises où ils prêchent la parole de Dieu, puis ils se font passer pour des disciples de Jésus. Ils peuvent même faire des miracles, mais leur enseignement est faux. C'est pour ça que ça l'incombe à notre responsabilité de vérifier les écrits pour savoir ce qu'on dit, si c'est vrai. Nous sommes responsables de connaître par nous-mêmes, en lisant la Bible, si les enseignements qu'on a reçus sont bibliques ou pas. Puis il faut faire attention, puis Jésus dit, si vous détectez quelque chose, suivez-les pas, ils cherchent à vous séduire, puis à vous amener après eux. Jésus avait déjà parlé de ce sujet en expliquant qu'il ne regarde pas au miracle. Jésus regarde pas au miracle, mais il regarde le mode de vie de ceux qui le suivent. C'est pas les miracles qui épatent Jésus, il regarde ce qu'on vit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Ah, est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu ou si c'est quelqu'un qui vit tout croche, qui est esclave du péché, puis qui marche d'une manière tout croche, puis qui dit n'importe quoi, qui est pas biblique. C'est important de vérifier pour voir si vraiment c'est un vrai. Dans Matthieu, chapitre 7, les versets 21-24, Jésus avait déjà enseigné les apôtres là-dessus. Il dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. » Voyez-vous qu'il y a une différence entre celui qui dit et celui qui fait. Puis c'est important d'être des gens actifs pour le Seigneur, de pas être juste des gens qui disent. Faut vraiment vivre la parole de Dieu, y croire, de la garder, puis d'en parler. Puis c'est ça qu'il faut faire, dans le bon sens, je veux dire. Il y a plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voyez-vous, c'est pas les miracles qui épatent Jésus. C'est pas toute l'amas de miracles. Les gens qui sont loin, qui ont reçu une onction, qui ont reçu l'esprit, il y a différents types d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, puis il y a d'autres esprits qui font des miracles. Un peu plus loin dans l'étude, je vais vous en parler. Ces gens-là, qui ont d'autres esprits, peuvent aussi faire des miracles au point de séduire les élus. On l'a lu tantôt dans Matthieu, au chapitre 24, le verset 23 et 24, qu'ils vont faire des grands prodiges et des miracles au point de séduire même les élus, s'il était possible. Il y a une seule manière pour pas être séduit. C'est ce que Jésus dit dans les signes qui parlent à ses disciples. C'est d'être bâti sur le roc, de s'appuyer sur la parole de Dieu, de lire la Bible, de l'étudier, de la méditer, puis de pas aller au-delà de ce qui est écrit. Tu te trompes pas dans ce temps-là. Les gens qui se trompent, c'est ceux qui parlent par audace, puis ils osent prophétiser des choses parce qu'ils veulent. Ils pensent qu'à force de croire leurs propres paroles, qu'ils vont finir par arriver. Puis c'est archi faux. Ça marche pas comme cela. C'est toujours par révélation de ce que le Saint-Esprit donne que les choses s'accomplissent, puis les choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Voyez-vous? Je vais revenir un petit peu plus tard dans l'étude sur la question des faux prophètes, mais parce que Jésus en a averti à plusieurs reprises dans Matthieu, puis il veut que les chrétiens, ses disciples, prennent garde de ne pas se laisser séduire. C'est parce qu'il y a une mise en garde. Si on pense qu'il n'y a pas de danger, puis qu'on ne crée pas ce qui est dit, puis on passe par-dessus ces avertissements-là du Seigneur, on risque de se faire tromper, puis de se faire embarquer dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Jésus annonce aussi d'autres signes, on continue dans Matthieu, qu'il y aura des guerres. Des guerres sont des signes que Jésus est à la veille de revenir. Pourquoi? parce que Jésus nous a avertis qu'il y en aurait. Mais il y a des avertissements dans tout cela et aussi des encouragements. Dans Matthieu 24, le verset 6 et 7, Jésus a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » On va arrêter là, dans ce passage-là. Puis on voit dans Marc et dans Luc, dans Marc au chapitre 13 et verset 7 et 8, et Luc 21, chapitre 21, verset 9, il dit encore les mêmes affaires. Il dit, on va en entendre parler de la guerre, puis il va y avoir des gens qui vont vous parler de la guerre. Parce que quand quelqu'un voit des guerres à télévision, puis ou dans ce temps-là, il voyait pas ça à télévision, il voyait ça parce que les autres disent, mais aujourd'hui, on a ça en direct, on entend parler de guerre ici, de guerre là, mais ça trouble les gens. Quand les guerres durent longtemps, puis il se passe des affaires, qu'on a des retombées dans notre pays, ça nous énerve, ça nous inquiète. Puis Jésus nous a avertis qu'il y aurait comme signe des guerres, des bruits de guerre, on entendrait parler, puis ça pourrait nous énerver. Jésus nous a avertis de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'énerver. Premièrement, c'est pas une guerre qui va mettre le terme au temps des nations. Bien qu'il va en avoir des guerres tout le long du temps. À partir de Jésus, il y en a eu, puis il y en a encore aujourd'hui, puis il va en avoir encore. Ça devrait nous mettre en garde, puis dire, Jésus revient bientôt, mais je dois me garder d'être troublé par ces choses-là. C'est ce qu'il nous dit. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Toutes ces choses-là sont prédites. Toutes les prédictions des prophéties de la Bible qui ont été faites doivent s'accomplir. Dans chacune des prédictions qu'on va voir, que ce soit de la guerre ou un peu plus tard dans l'étude des pestes, des famines, des tremblements de terre, des cataclysmes, toutes sortes d'affaires qui vont arriver, mais il faut que ces choses-là arrivent. On n'est pas maître de cela. C'est comme si un pays subit une guerre, mais il faut garder la foi et ne pas se laisser ébranler par les événements. Il ne faut pas tomber là-dedans, puis après ça être désemparé, puis on perd notre paix, puis on est même plus sûr que Jésus est avec nous. Ça arrive des gens qui sont comme cela, mais Jésus nous met en garde de se surveiller, puis il faut que ces choses-là arrivent. Puis comme tous les autres signes aussi, puis comme ce que je voulais dire là-dedans à travers cela, c'est que des fois, on pense que si j'interviens, puis si je mets de l'opposition, si je crie fort, si je brasse mon gouvernement, ça risque de pas arriver. Non, je regrette. Si une chose est due pour arriver parce qu'elle a été annoncée, elle va s'accomplir comme ça l'a été écrit. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'on se mette à prier, on prie pour nos gouvernements, on prie pour la situation, puis ça raccourcit le temps. Parce que ça hâte le retour. Fait que Dieu fait en peu de temps ce qu'il voulait faire à travers ces événements-là. Voyez-vous, la seule manière d'intervenir, c'est pas en s'inquiétant, c'est pas en se troublant, c'est en priant. Les choses vont s'accomplir, il faut que ces choses-là arrivent, mais si on prie, ça va durer moins longtemps. Nos souffrances vont être moins longtemps. Les souffrances du monde vont être moins longtemps. Puis le salut des hommes, ils vont se faire plus rapidement. Voyez-vous, c'est de même, ça marche. Dieu, dans son plan, il veut ébranler les nations, juger des nations, pour amener ces gens-là à la repentance, pour qu'ils soient sauvés. Nous, comme je vous le répète, on est encore dans le temps de la grâce, puis Dieu veut sauver ces gens-là avant son retour, parce qu'après, il va être trop tard. Fait qu'il va arriver des événements qu'on n'a pas eu le choix de subir, puis il faut garder la foi, se garder d'être troublé. Ça l'a été prédit qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, qu'il y aura des faux prophètes, etc. Ça va arriver, mais il faut garder le cap, il faut garder la foi. Et Jésus dit, vous allez voir des guerres, mais ce ne sera pas encore la fin. Parce que même si les gens, voilà 2000 ans, ils ont vu des guerres, mais ce n'était pas encore la fin parce qu'il y avait d'autres signes qui doivent s'accomplir. Puis, jusqu'à, on va en parler un peu plus tard, mais on va développer cette idée-là un peu plus tard, ça va être la fin après qu'on aura vu la grande guerre finale qui doit arriver. Puis ça, c'est une grande guerre à la fin où ce que Jésus va détruire l'Antéchrist. Ça nous parle de ça dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 14. Ça nous parle de démons, des esprits de démons un peu qui font des miracles, qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, il y a une grande guerre qui va se préparer à la fin des temps, orchestrée par des esprits de démons qui font des miracles, qui vont rassembler les rois pour une super guerre. Fait que tant que c'est pas arrivé, c'est pas encore la fin, voyez-vous. Au verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Wow! Ça va être quelque chose quand ça va s'accomplir. Cette journée-là, ça va être terrible parce que c'est Jésus lui-même qui va combattre. Ces démons-là vont rassembler une super armée, vont se ramasser à Jérusalem pour pouvoir attaquer les Juifs, mais en réalité, les démons veulent attaquer le retour de Jésus, puis ils vont se faire détruire par Jésus lui-même. La Bible prédit la destruction du gouvernement mondial avant que Jésus s'installe comme roi de toute la terre. Il va le faire, cette destruction-là, puis ça fait partie des signes. On va en parler un petit peu plus tard, mais là, aujourd'hui, je veux juste vous mettre la puce à l'oreille en parlant de guerre. Même s'il y a encore des guerres aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas la grande guerre, ça ne sera pas encore le temps du retour de Jésus. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, comme je vous parlais tantôt, que Jésus va mettre la fin à cette guerre-là, ça dit, « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Ça parle très clairement que lorsque Jésus apparaîtra, l'éclat de son avènement, il est là, tout le monde le voit, le feu va sortir de sa bouche, puis il va détruire et anéantir cette immense armée qui va savoir rassembler pour affronter Jésus. Ils seront pas de taille parce que Jésus, c'est le Tout-Puissant. Il le dit après sa résurrection à ses disciples. Il dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » S'il aurait voulu Jésus, il fasse ça, puis toute la planète, tout l'univers est disparu. Mais c'est pas ça son plan. Son plan, c'est de prédire des choses, puis il veut voir les gens en train de l'attendre, de croire à ses messages, puis de l'attendre, puis il dit, « J'ai hâte que Jésus revienne pour venir me chercher. Je le crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, puis je veux faire partie des sauvés. » Pour finir avec un dernier verset, Jésus nous dit de rester sur nos gardes. Il nous a déjà tout prédit. Dans Marc 13, 23, ça dit, « D'être sur nos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Voyez-vous, vu que tout est annoncé d'avance, on peut vivre de façon, « Je le sais que ça doit arriver, je m'inquiète pas. » Je fais confiance au Seigneur. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ma famille. Dieu a un plan, puis je me soumets à son plan, puis je vais voir de mes yeux les choses s'accomplir, puis à un moment donné, il va venir nous chercher, quand que lui l'aura décidé. Il faut toujours être prêt. C'est la question que je vais vous poser présentement. Êtes-vous prêt? Avez-vous reçu le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel? L'avez-vous reçu dans votre vie pour en faire votre Seigneur et votre Sauveur? Si vous le voulez, on va faire une prière ensemble. Je vais faire la prière, vous avez juste à répéter ces mots, puis ça va être comme un engagement devant Dieu pour vous engager à le suivre et à le servir pour le reste de votre vie, puis à l'attendre, à attendre son retour des cieux. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Tu es maintenant sauvé, crois-le. C'est ça qui est saisi par la foi, ses promesses. Marche avec le Seigneur, lis la Bible, va dans une église évangélique, aussitôt que tu le pourras, puis va sur mon site, publicationévangélique.com, puis tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi un disciple. C'était les derniers mots pour pouvoir vous encourager à accepter le Seigneur pour être prête à son retour qui vient bientôt. Amen.